Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
La revue de presse internationale avec vous, Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on part en Afrique où l'épidémie de Covid-19 flambe.
Oui, l'Afrique qui affole aujourd'hui l'OMS à l'image de cette infographie vertigineuse que vous pouvez retrouver sur le site de la BBC. Des graphiques qui explosent et qui s'accélèrent au fil des semaines avec ce tiercé morbide, hein, l'Afrique du Sud qui avoisine les 60 000 cas, l'Égypte, le Nigeria. Jusqu'ici, l'Afrique était le continent le plus épargné par le virus. Pourtant, dès les premiers mois de l'épidémie, souvenez-vous, tous les yeux se tournaient vers le continent africain, craignant là-bas une explosion brutale, mais déjouant tous les pronostics, l'Afrique avait surpris en réussissant à contenir le nombre de cas. Alors, parmi les explications qu'on avait alors avancées, la jeunesse de la population face à une maladie dont la mortalité affecte principalement les seniors, on avait aussi parlé d'une possible fragilité du virus à la chaleur ou d'une réponse immunitaire plus forte des populations africaines dont les organismes sont plus souvent confrontés à de grosses attaques virales. Et puis, on avait justement rappelé l'expérience africaine en matière d'épidémie.
Et l'Afrique avait réagi très vite, justement.
Oui, souvenez-vous, Guillaume, là encore, hein, la majorité de ces pays avaient réagi de façon très précoce en prenant des mesures de confinement très drastiques, en même temps que l'Europe, hein, alors que le virus circulait encore très peu à ce moment-là sur le continent africain. Mais voilà, rappelle la BBC, eh bien les chiffres sont là et ils s'accélèrent. La courbe augmente d'un coup de façon vraiment très importante et surtout, hein, ce qui inquiète, explique l'analyste de la BBC, c'est que le virus est sorti des villes et qu'il se répand dans les campagnes, dans les zones rurale où le système de santé qui est déjà défaillant dans les capitales est encore plus vulnérable. La plupart des pays sous la pression économique et sociale intenable ont allégé leur confinement et là encore les effets se font aujourd'hui sentir.
C'est ce qui a provoqué la colère de Denis Mukwege, Claude.
Oui, le prix Nobel de médecine, Denis Mukwege, qui jette l'éponge, comme le titre Media Congo. Le médecin avait pris en main la riposte au virus dans sa province du Sud Kivu. Il vient de démissionner avec fracas. Il estime, en fait, Denis Mukwege, ne pas avoir eu les moyens de mettre en œuvre sa stratégie. Tester, identifier, isoler et traiter. Principale difficulté rencontrée, le temps de traitement des tests, plus de 2 semaines pour recevoir des résultats d'analyse. Et ça, évidemment, Guillaume, ça empêche toute stratégie d'isolement des malades. Et puis, il y a le relâchement des populations, l'abandon des gestes barrières. Et voilà donc le prix Nobel de la paix qui baisse les bras, lui dont on connaît pourtant la combativité. Cette démission, c'est aussi un signal lancé aux autorités de Kinshasa et on se souvient alors des ambitions politiques que certains prêtent parfois de Denis Mukwege, ses bras de fer entre l'Est et l'Ouest du pays. La RDC, déjà ravagée par la violence et tant d'autres épidémies, elle qui sort à peine d'une grave crise d'Ebola et affronte en même temps une épidémie de rougeole qui a déjà fait plusieurs milliers de morts.
Et puis la colère, elle gronde aussi à la une des journaux libanais ce matin.
Oui, le Liban qui à nouveau manifeste après la dégringolade phénoménale de sa monnaie, la livre libanaise qui a frôlé hier le seuil des 5000 livres pour un dollar et cela fait exploser la rue contre une classe politique accusée d'incompétence, de corruption, des politiques qui ont mené le pays à la ruine, disent les manifestants. Non, le Liban n'est pas mort. C'est le titre de la lettre ouverte d'un lecteur que publie justement L'Orient le Jour. L'article fustige le communautarisme de la société libanaise à l'origine de tous les maux des pays. La guerre civile qui, je cite, a érigé des chefs de guerre en héros et ce sont eux, ceux-là même, qui s'accrochent au pouvoir malgré la colère de la rue. Alors partout, on voit dans la presse ces images de rassemblements, ces pneus brûlés, ces routes fermées à la circulation. Et je vous conseille d'aller voir sur le site d'Al Jazeera ce reportage sur le marché noir au Liban, cet argent qu'on échange comme de la drogue lors de rendez-vous convenus sur WhatsApp avec des dealers de billets hein, que l'on retrouve en grimpant dans leur voiture et on échange des dollars contre des liasses de livres libanaises, ces billets qu'on ne peut même plus retirer dans les banques.
Et pour finir, Claude, une histoire qui semble tout droit sortie d'un roman de John le Carré.
Oui, Guillaume, et cette histoire, c'est The Economist qui nous la raconte. Et elle commence dans un bar de Munich. Un Danois, un Suédois, un Allemand et un Néerlandais boivent une bière. Ces quatre hommes sont des agents de renseignement. Alors chacun dans leur pays respectif, ce sont des spécialistes du cryptage. On est en fait à la fin des années 70, on est donc en pleine guerre froide. Et l'alliance qu'ils vont passer pour intercepter et décrypter ensemble des messages codés, ils vont lui donner le nom de cette bière qu'ils sont en train de boire, une bière qui s'appelle la Maximator. Au centre de cette alliance, donc Maximator, une société de matériel de cryptage suisse qui s'appelle Crypto AG, et le propriétaire caché de cette entreprise, c'est en fait la CIA qui l'a acheté dans le cadre d'un partenariat très très confidentiel avec ses homologues allemands. Alors Crypto a vendu pour des millions de dollars de matériel à plus de 120 pays pendant des années. Les machines vendues aux alliés des Américains étaient sécurisées, tandis que les autres pouvaient être craquées par les espions américains. Et voilà comment la CIA et les renseignements extérieurs allemands ont espionné leurs ennemis, mais aussi leurs alliés pendant des années. Alors l'histoire avait été révélée il y a quelques semaines par une enquête conjointe du Washington Post, de la ZDF et de la radio-télévision suisse. Elle met à mal la sacro-sainte neutralité de la Suisse, qui a en fait donc hébergé quand même tacitement un service de renseignement allié. Alors c'est une histoire passionnante que vous retrouverez traduite cette semaine dans les pages de Courrier International. Guillaume, vous lirez ça peut-être ce week-end, peut-être avec une Maximator à la
comme
main.
Vous y allez.
Désolé de vous parler de bière alors qu'on est à l'ère du café. Moi, Guillaume, je vous laisse. Je vais chercher les croissants.